Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 25 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 16 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. La sécurité et la stabilité dans la région ne peuvent être obtenues que par la création d'une région forte, a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Exercice naval conjoint de l'Iran, de la Chine et de la Russie en mer d'Oman. Le président Raïsi charge le ministère des Affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la communication avec les citoyens à l'étranger. L'investissement saoudien en Iran pourrait avoir lieu très rapidement, a déclaré le ministre saoudien des Finances. C'était les principaux titres de l'actualité, voici le journal. L'Iran, la Chine et la Russie vont entamer un exercice naval conjoint en mer d'Oman du 15 au 16 mars, a fait savoir mercredi 15 mars le ministère chinois de la Défense dans un communiqué. L'exercice conjoint, surnommé « Ceinture de sécurité navale 2023 », débute le 15 mars et se poursuivra jusqu'au 19 mars, a déclaré le ministère chinois dans un communiqué. La manœuvre aidera à approfondir la coopération pratique entre les marines des pays participants et d'insuffler une énergie positive en faveur de la paix et de la stabilité régionale, a souligné le texte. Cet exercice conjoint de 4 jours impliquera les forces militaires de ces 3 pays, dont les unités maritimes et aéroportées de la marine de la République islamique d'Iran et du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des flottilles de Chine et de Russie. Il est à noter que les forces militaires de l'Iran, de la Chine et de la Russie ont organisé plusieurs exercices militaires conjoints ces dernières années dans le but d'améliorer la sécurité du commerce maritime international, de lutter contre la piraterie et le terrorisme maritime, d'échanger des informations sur les opérations navales et de sauvetage, ainsi que de secours. Le président iranien Ebrahim Raïsi a déclaré que le gouvernement est prêt à fournir des plateformes nécessaires aux activités des investisseurs iraniens dans le pays, ainsi qu'au retour des étudiants iraniens, afin que le capital et les connaissances des Iraniens vivant à l'étranger puissent être utilisés pour servir l'Iran. Raïsi a souligné l'importance du rôle des Iraniens à l'étranger dans la préservation de la culture, de la civilisation et de l'identité iranienne. le président Raïssi a chargé le ministère des Affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la communication avec les citoyens à l'étranger. Le ministre saoudien des Finances, Mohammad Al-Jaddan, a déclaré mercredi 15 mars, lors de la deuxième session de la conférence du secteur financier à Riyad, que les investissements du royaume saoudien en Iran pourraient avoir lieu rapidement, en particulier à la suite du récent accord entre les deux pays. Il existe de nombreuses opportunités pour les investissements saoudiens en Iran. Nous ne voyons pas d'obstacle à cet égard tant que les termes de tout accord seraient respectés, a ajouté le ministre saoudien, soulignant que la stabilité régionale est nécessaire à la promotion du développement de l'économie. La République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu la semaine dernière de reprendre leurs relations diplomatiques après que des responsables des deux pays se sont rencontrés en Chine. L'Iran est notre voisin et le restera pendant des centaines d'années à venir. Je ne vois aucun obstacle à la normalisation de nos relations, notamment dans le domaine des investissements et du développement économique, a-t-il poursuivi. Le président syrien a salué la Russie pour avoir soutenu la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays. Bachar al-Assad a également salué toute proposition russe d'établir une nouvelle base militaire en Syrie. Le président syrien, qui est en voyage à Moscou, a déclaré que le soutien de la Russie à la Syrie restait fort malgré son opération militaire spéciale en Ukraine. Il a noté que la présence militaire russe en Syrie ne devrait pas être temporaire ou simplement liée à la lutte contre le terrorisme. Le président Assad a également remercié son homologue russe, Vladimir Poutine, d'avoir envoyé des équipes d'aide et de sauvetage pour aider les Syriens après un tremblement de terre dévastateur qui a frappé le nord et l'ouest du pays. Mercredi, Vladimir Poutine a accueilli le président Assad pour des pourparlers qui se sont largement concentrés sur la reconstruction de la Syrie en réparant ses liens avec la Turquie. Et enfin, le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies a qualifié de bonne et de positive la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Hans Grundberg, à Téhéran, et a exprimé son espoir qu'un environnement propice à la paix au Yémen sera créé. Selon le journaliste de l'IRNA, Stéphane Dujarric, le porte-parole des Nations Unies, a déclaré mercredi que l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour normaliser les relations est sans aucun doute une grande opportunité et une grande œuvre sur le plan diplomatique. Dujarric a déclaré « Le représentant de l'Organisation des Nations Unies a effectué une visite bonne et positive en Iran. Nous espérons que cela créera une atmosphère propice pour assurer une voie politique vers la paix au Yémen. » Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. En route vers Abu Dhabi, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a confirmé que l'objectif de la diplomatie de voisinage de Téhéran était de créer une région forte. Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a quitté Téhéran jeudi matin, 16 mars, pour une visite d'une journée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Avant de partir, Shamkhani a déclaré dans un communiqué de presse que la région peut assister à de nouvelles évolutions dans les relations bilatérales et multilatérales si les pays qui la composent arrivent à cette conviction qu'ils ne peuvent parvenir à la sécurité et à la stabilité que par l'établissement d'une région forte. Il a ajouté que l'Iran et les Émirats arabes unis avaient de nombreux partenariats économiques, politiques et de sécurité et que leur renforcement nécessite la poursuite des consultations entre les hauts responsables des deux pays. La visite de Shamkhani à Abu Dhabi intervient à l'invitation de son homologue émirati, Tahnoum Ben Zayed. Lors d'une réunion avec Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, mercredi 15 mai, l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Téhéran, Saif Mohammad Obaid Jassem Al-Zabi, a déclaré haut et fort « Le gouvernement des Émirats arabes unis est contre tout préjudice à l'Iran et garantit que personne ne peut utiliser le sol des Émirats arabes unis pour attaquer l'Iran. Les Émirats arabes unis estiment que la sécurité de la région doit être maintenue dans son ensemble et ne peut être divisée en différentes parties », a-t-il affirmé, avant de souligner que la République islamique d'Iran est considérée comme un pays important pour assurer la stabilité de la région et nous estimons qu'aucun autre pays ne peut garantir nos intérêts, a-t-il souligné. Les Émirats arabes unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Iran et nous sommes disposés à développer ce partenariat plus que jamais, a-t-il réitéré. Et lui d'ajouter, le transit depuis les Émirats arabes unis et l'Iran vers la Russie, la Turquie, les pays asiatiques et la région eurasienne a créé une opportunité irremplaçable pour les deux pays. Nous devons donc y prêter une attention toute particulière. Il va de soi que les investissements dans ces deux pays vont s'avérer efficaces dans le développement économique des deux parties. Plus loin dans ses propos, M. Ghalibaf a mis en garde contre le danger de la présence américaine dans la région, soulignant que l'intervention des puissances telles que les États-Unis conduit à des tensions car elles ne cherchent que leurs propres intérêts et perturbent la sécurité de la région. Ghalibaf a également mis en garde contre la présence du régime israélien dans le Golfe Persique et ses complots visant à porter atteinte à la sécurité de cette région névralgique.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision, ici à partir des studios de Presse TV, à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler pour ce débat étant l'Ukraine, notamment ce qui se passe à Bakhmout, également ce qui se passe également en Pologne, le matériel américain étant arrivé depuis un certain nombre de jours. C'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous préparons en général un reportage et par la suite, nous faisons venir nos invités. Aujourd'hui, une invitée très spéciale en direct de Donbass. C'est après le reportage.
Zelensky interdit la retraite des soldats encerclés des forces armées ukrainiennes à Bakhmout. M. Zelensky a tenu une réunion du quartier général du commandant en chef suprême au cours de laquelle tous les membres du quartier général se sont prononcés en faveur de la poursuite de la défense de Bakhmout, selon le site web du bureau du président. Aujourd'hui, Bakhmout est encerclé, On peut y accéder par la seule route de campagne qui est sous le feu de l'artillerie russe. Les autres routes sont contrôlées par la PMC Wagner. L'espace d'information est rempli de messages provenant de différentes sources sur l'abandon de Bakhmut. Même les responsables de l'OTAN et les experts militaires affirment que la ville tombera bientôt sous les assauts des Russes. Pendant ce temps, le président Zelensky affirme que la ville n'a pas d'importance stratégique, mais continue d'y envoyer des renforts dans le feu de l'action. Alors pourquoi Kiev se bat-elle encore pour cette ville? Si vous regardez la carte, il est immédiatement clair qu'après la prise de Bakhmut, les Russes disposeront de plusieurs voies pour poursuivre leurs attaques. Tout d'abord vers Slaviansk, un nœud routier très important à partir duquel s'ouvrira la route vers Kharkiv, la ville de Dnipr. Ils auront également la possibilité d'encercler complètement le groupement près de Donetsk. Le ministre ukrainien de la Défense, M. Reznikov, a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine avait besoin de recevoir environ 250 000 munitions d'artillerie par mois de la part des pays de l'OTAN. Mais ni les États-Unis ni l'Europe ne seront en mesure de fournir autant de munitions. Cela est d'autant plus évident que les autorités allemandes et britanniques ont déclaré qu'elles manquaient de munitions et de divers types d'armes. Il faudra au moins 10 ans pour reconstituer les réserves et poursuivre l'aide à l'Ukraine.
Alors nous revoilà sur les plateaux. Comme je vous l'ai indiqué au début, nous avons la chance de pouvoir avoir une invitée très spéciale aujourd'hui en direct directement du Donbass, là où se font les feux de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc tout de suite nos invités. Notre première invitée est Madame Christelle Néant, fondatrice de Donbass Insider. Bonjour Madame Christelle Néant.
Bonjour.
Ravie de vous avoir ici sur nos plateaux, sachant en plus les difficultés qu'il peut y avoir de pouvoir vous connecter avec nous là maintenant. Notre deuxième invité, Monsieur Arnaud Develet. Bonjour Monsieur Develet.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Mme Néant.
Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors on va commencer par notre invité, Madame Christelle Néant. Déjà merci encore une fois d'avoir pu vous libérer aujourd'hui. On voudrait faire le point en fait avant donc le printemps n'arrive. On sait que l'Ukraine se prépare à attaquer la Russie, en tout cas les forces russes. Est-ce que vous ressentez cette préparation sur le front, notamment, bien que la Russie ait eu plusieurs victoires ces dernières semaines, Bakhmut pourrait être une des dernières. Qu'en pensez-vous, vous-même, qui êtes actuellement, je répète, dans le Donbass?
On voit très clairement actuellement une accumulation de forces ukrainiennes un peu partout sur la ligne de front, que ce soit dans la région de Zaporogie, au nord près de Svatovo-Kremenaya ou des envois de renforts vers la région d'Artyomovsk et Bakhmut. On s'attend de toute façon à une contre-attaque ukrainienne, ça c'est clair, les Russes sont au courant. Il y a d'ailleurs eu cette nuit des frappes sur un certain nombre de cibles militaires ukrainiennes, entre autres à Konstantinovka, où des renforts ukrainiens avaient été justement envoyés. Donc la Russie frappe de nouveau pour empêcher ces regroupements ou pour les détruire avant qu'ils ne constituent une menace. Concernant la situation à Bakhmut, Bakhmut est ce qu'on appelle dans une situation d'encerclement opérationnel, c'est-à-dire qu'effectivement il ne reste plus qu'une espèce de route, chemin plus exactement, qui passe à travers champs pour entrer ou sortir de la ville, mais ce chemin est lui-même sous contrôle de tir de Wagner, donc ils l'ont en portée de vue, il est à moins d'un kilomètre des positions les plus proches de Wagner, qui peuvent donc voir ce qui s'y passe, voir s'il y a des convois de voitures qui essayent de rentrer ou de sortir de la ville, et ces convois se font régulièrement bombarder. Donc on a d'ailleurs des images qui viennent du côté ukrainien, montrant ces véhicules brûlés qui sont sur le bord de ce chemin, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Concernant le fait que Bakhmut pourrait être la dernière victoire russe, non. Pareil sur le fait que ça serait soi-disant pas une ville importante stratégiquement. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Zelensky continue d'y envoyer des renforts alors qu'ils ont déjà en un mois eu plus d'une dizaine de milliers de pertes parmi les soldats ukrainiens pour garder la défense de cette ville. Ça n'a strictement aucun sens. Je veux dire, là, il y a un illogisme dans les déclarations. C'est une ville, bien sûr, extrêmement importante, puisqu'elle va ensuite débloquer l'avancée vers Slaviansk et Kramatorsk, permettre donc d'encercler, de faire un très grand encerclement, non seulement des forces ukrainiennes qui sont encore à Seversk, un peu plus au nord, et de celles qui sont à Avdiivka. Donc c'est extrêmement important, c'est un point important comme pouvait l'être Popasnaya pour la libération de la République populaire de Lugansk. C'est une ville qui ouvre ensuite les voies vers les autres directions vers lesquelles les forces russes vont avancer. Donc je ne pense pas du tout que ce sera la dernière victoire de l'armée russe, ce ne sera qu'une parmi tant d'autres et qui va permettre justement de débloquer les suivantes.
Alors, l'un des points que je voudrais aussi voir avec vous, c'est qu'on a pu comprendre grâce aux réseaux sociaux que la pression monte concernant le gouvernement de Kiev sur ses soldats. Vous-même, vous avez été mis sur la liste noire parce que vous essayez d'avoir des vraies vidéos, des vraies informations sur place. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le gouvernement ukrainien maltraite ses soldats, maltraite les Ukrainiens pour qu'ils s'en aillent donc au front, sachant que vous venez de le dire, plus d'une dizaine de milliers de personnes viennent de mourir rien que pour le front de Bakhmout, sachant qu'il y a plusieurs fronts. Est-ce que tout ça, ce sont des qu'en dira-t-on sur les réseaux sociaux ou sont des faits véridiques que vous pouvez vous-même percevoir?
Ah oui, on le voit, il y a pas mal de vidéos qui sortent où on voit des recruteurs militaires ukrainiens qui attrapent des hommes dans la rue, dans les boîtes de nuit, ils squattent devant les magasins, devant les points de distribution même d'aide humanitaire pour attraper tous les hommes, valides ou non. D'ailleurs, on a même eu des choses assez délirantes où on a vu un monsieur qui n'avait plus de main, qui avait reçu une convocation pour aller à l'armée. Je veux dire, à un moment, à Bakhmout, Wagner a fait prisonnier des soldats ukrainiens. Il y en a un, c'était un monsieur qui manifestement avait plus de 55 ans. Et les deux autres, il y en a un, on est certain qu'il a moins de 18 ans. C'est un jeune homme qui n'a même pas encore de poils au menton. Donc on voit des choses absolument délirantes. On a une vidéo d'un jeune à Kharkov qui avait à peine 17 ans, qui a reçu une convocation. Et ce jeune s'est filmé et a filmé son suicide en disant « il est hors de question que j'aille me battre pour l'Ukraine ». Enfin, je veux dire, quand vous en arrivez à des extrémités pareilles, c'est absolument terrible. L'Ukraine, je veux dire, on a capturé un certain nombre de soldats ukrainiens à Bakhmout qui ont dit on a eu à peine deux ou trois jours de on nous a attrapés dans la rue, on nous a envoyés au camp d'entraînement deux ou trois jours et puis hop, à Bakhmout. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, c'est de la chair à canon, c'est vraiment maltraiter ces soldats au-delà de tout ce qui est imaginable de faire des choses pareilles.
Merci. Madame Christelle Néant. Alors, Monsieur Develay, vous-même, vous êtes patrologue. Je ne sais pas si vous êtes encore à Moscou ou si vous avez bougé, mais on raconte aussi beaucoup sur. Encore une fois, on va revoir un peu, revisiter les réseaux sociaux et ce que disent les médias européens concernant un désaccord entre la compagnie Wagner et Moscou d'un point de vue militaire. On a entendu beaucoup de désaccords. On a même cru comprendre que Wagner était fâché après même le président Poutine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une manière de montrer que le front se disloque pour les Russes? Pourquoi on entend ce genre de propos tenus alors qu'il y a quand même, on voit ce qui se passe à Bakhmout, c'est Wagner qui avance. Est-ce que c'est vrai donc? Est-ce que Wagner est toujours avec les Russes? Tout se passe bien pour eux? Ou il y a une vraie dissension qui se fait petit à petit?
Oui, écoutez, je pense qu'il faut raison garder. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Il faut avoir un certain sens de la perspective. Chacun fait son travail. Après, il peut y avoir des contrastes, effectivement, dans l'aspect opérationnel en ce qui concerne l'approvisionnement de telle ou telle, tantôt des munitions, tantôt de l'équipement. Bon, vous avez une structure d'État, donc le ministère de la Défense, qui fonctionne, on va dire peut-être de manière un peu lente, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et puis à côté, vous avez effectivement PMC Wagner qui, bon, on n'a pas du tout les mêmes systèmes opérationnels en interne et qui est plus plus ou moins en mesure, si vous voulez, d'anticiper, d'agir et de projeter ses forces. Et donc, il peut y avoir effectivement de temps en temps des besoins de graisser un peu tout ça, mais fondamentalement et sur le fond, il n'y a absolument pas du tout de raison d'en faire plus que ce qu'on peut imaginer au-delà de l'aspect routinier des choses. Les objectifs stratégiques sont partagés par toutes les composantes des forces armées russes et de leurs alliés. Et partant de là, comme l'a souligné Christelle, Bakhmout ne sera certainement pas la dernière victoire russe. Tout se passe exactement comme prévu. S'il y a un souci, c'est que, effectivement, au niveau purement militaire, ça n'a aucun sens, à la limite, pour les Ukrainiens de s'acharner à garder cette ville. Ils devraient, d'ailleurs, on a eu des retours. Il semblerait qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Zaluzhny et Zelensky, que même des conseillers militaires otanesques ont recommandé de se replier vers l'ouest et de reconsolider une ligne de défense donc un peu plus à l'ouest. Et on s'aperçoit que pour des raisons, je pense, qui portent sur la peur de Zelensky, alors il commence à y avoir une certaine paranoïa qui s'installe dans le système Zelensky lui-même, bien sûr, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que lui mène une guerre informationnelle, alors que avant tout, pour faire de l'information qui soit digne de ce nom, il faut avoir des résultats militaires probants sur le terrain. Et on est en présence de quelqu'un qui est en train de perdre pied, qui sent que, en plus de ça, eu égard au calendrier électoral américain, il y a une certaine fatigue Ukraine qui s'installe. Et lui, son travail en tant que VRP, si je puis dire, c'est de vendre le conflit par tous les moyens possibles, faire acheminer donc l'argent, mais aussi autant que possible les équipements militaires. Et donc, il s'aperçoit que, à défaut de pouvoir mettre en scène une crypto-victoire militaire, une crypto-offensive, contre-offensive, sa position va être fragilisée, bien sûr.
Merci,
et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut vraiment percevoir, si vous voulez, l'information, elle va tout azimut. Et on peut entendre effectivement des choses, mais qui ne sont pas avérées sur le terrain.
Merci, Monsieur Develet. L'autre point aussi, c'est que les Américains ont mis sur le dos des Ukrainiens l'explosion qu'il y a eu sur le gazoduc russe pour le gaz. Est-ce que c'est une manière de dire que les Américains se divisent avec les Ukrainiens? Est-ce que ça a été perçu comme une trahison par les Ukrainiens? Et secondo, le fait que ces derniers temps, le multipolaire commence à faire des adhésions fortes, comme par exemple si c'est la Chine est de plus en plus officiellement avec la Russie dans ce conflit. Il y a également des accords avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Est-ce que, également, il y a un point important dans ce combat pour la Russie?
La question est pour moi?
Oui, pour vous, Monsieur Develet. Oui, tout à fait.
Oui, on assiste à un changement du centre de gravité vers l'Est, de toute évidence, et ça s'accélère, puisque l'Ukraine est un peu, si vous voulez, l'épicentre de cette tempête géopolitique. Et au fur et à mesure que les mois passent, on s'aperçoit que toutes les tentatives, tantôt au niveau institutionnel, au niveau de l'ONU, par les Occidentaux, recueillent de moins en moins de soutien. En tout cas, le soutien initial sur lequel pouvait compter la Russie ne faiblit pas, bien au contraire. Et maintenant, et comme vous l'avez souligné, il semblerait que cette espèce de nouvel axe eurasiatique peut compter de plus en plus de satellites qui viennent se greffer autour de lui. Et vous avez mentionné l'Arabie Saoudite, vous avez mentionné effectivement le rôle de la Chine comme intermédiaire dans le rétablissement des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad. Et on s'aperçoit que finalement, c'est tout un ensemble qui est en train d'émerger de plus en plus rapidement et que partant de là, la situation ukrainienne maintenant devient presque une situation où une boîte a été ouverte, une boîte de Pandore par les Occidentaux. Ils avaient visiblement une certaine vision des choses, mais que la réalité est tout autre, que la Russie se préparait déjà par rapport aux sanctions économiques depuis 2014. C'est tout un système d'autarcie qui a été mis en place, d'autosuffisance, et que la Russie étant un territoire gigantesque avec des ressources naturelles énormes et presque illimitées, je dirais, elle trouvera toujours preneur, elle trouvera toujours des marchés alternatifs. Et donc tout se retourne contre les Occidentaux, que ce soit les sanctions, que ce soit la perte de leurs arsenaux, qui n'en permet même pas maintenant eux-mêmes de se défendre dans leur propre territoire si la situation venait à évoluer dans ce sens-là. Et sur un plan du narratif, sur un plan du soft power, maintenant, on s'aperçoit que l'empereur est nu, en fait. Et c'est ce qu'on voit au travers de mouvements vraiment d'indépendance au sens authentique, maintenant, et pas juste sur papier en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, bien sûr, en Asie occidentale, et de plus en plus maintenant aussi en Amérique latine. Donc c'est vraiment panique à bord en ce moment, et il n'est pas étonnant quelque part que Jake Sullivan ait fait cette déclaration où il encourageait, comme s'il avait la main sur les opérations, la Chine à discuter éventuellement d'un plan de paix avec Kiev. Propos repris bien sûr immédiatement par Zelensky, qui essaye de sauver un petit peu les meubles, mais voilà, je pense que la tendance lourde est là, et elle n'arrête pas de s'accélérer, c'est exponentiel, et on peut penser que à moins d'une irrationalité, on pourrait anticiper peut-être une forme de fin au conflit négocié avec des termes bien sûr avantageux pour la Russie, puisque la Russie a décidé maintenant que, après s'être fait mener par le bout du nez par les Occidentaux dans le cadre des accords de Minsk, maintenant il était nécessaire de prendre les choses en main et qu'ils n'allaient pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs objectifs fondamentaux, qui sont, comme vous le savez, démilitarisation et dénazification de l'Ukraine.
Merci, monsieur Develé. Hein, Christelle Néant, est-ce que vous percevez, vous, dans le Donbass, ce côté positif, cet élan vers la Russie au niveau international, du fait que l'Ukraine est en train de perdre petit à petit, et donc, on va dire, ses sponsors, puisqu'on se creuse la crise économique qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis, et également le mécontentement des Européens face à l'inflation, forcément le sponsoring est plus mince. Est-ce que vous-même, là-bas, dans le Donbass, vous percevez et les soldats russes perçoivent le fait qu'ils ne sont plus seuls face à ce conflit?
Pour l'instant, on voit, on perçoit ce soutien. Pour l'instant, ça n'est pas encore... là où on a eu vraiment le plus grand soutien, ça a été bien sûr de la part de l'Iran. Ça a été ce qui a été visible immédiatement. Maintenant, on commence à voir que la Chine commence à s'impliquer beaucoup plus dans le conflit. Elle était restée assez distante. Maintenant, elle commence vraiment à prendre fait et cause pour la Russie. Ça commence à se voir vraiment de plus en plus. On a eu la Corée du Nord aussi, qui s'était même dit prête à envoyer des soldats pour aider la Russie dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Donc on voit effectivement un changement de perception. Pour l'instant, ça se voit beaucoup au niveau des déclarations des politiques, au niveau médiatique aussi. On voit un intérêt de plus en plus marqué, entre autres, des pays africains pour ce qui se passe dans le Donbass. Donc il y a vraiment de plus en plus de demandes pour des analyses géopolitiques sur ce qui se passe, sur la compréhension de tout ça. Et sur le rôle de la Russie et de ce développement de ce monde multipolaire. On commence à le voir. On commence à les voir. Maintenant, sur le terrain, on ne voit pas encore de gros changements. On continue malheureusement de recevoir des munitions occidentales sur la tête. On continue de recevoir des roquettes de HIMARS. On continue de recevoir des obus 255 mm standard OTAN sur les zones résidentielles, des obus et des roquettes qui malheureusement détruisent des habitations, des infrastructures civiles et tuent ou mutilent des civils, y compris des enfants. De ce point de vue-là, on ne voit pas encore le ralentissement, on va dire, d'approvisionnement en armes côté occidental, bien au contraire, parce que maintenant ils envoient même des chars. Et qu'on commence à discuter potentiellement donc l'envoi d'avions de combat. Donc pour l'instant, on voit effectivement grandir en Occident ces manifestations de gens ordinaires, de citoyens contre le soutien à l'Ukraine, mais ils n'ont pas encore pris une ampleur telle que ça freine, on va dire, réellement cet approvisionnement. Je pense que cet approvisionnement va se tarir de lui-même, en fait, du fait que l'industrie, entre autres européenne, va être totalement dans l'incapacité, comme ils l'ont déclaré, hein, de compenser, de reconstituer les stocks et de compenser l'aide qui est fournie à l'Ukraine, puisque de par la perte du gaz et du pétrole russe pas cher, eh bien, l'industrie européenne est en train de plonger. Là, on a appris qu'en Allemagne, une grande entreprise métallurgique qui existe depuis des siècles vient de fermer. Donc c'est une entreprise qui avait survécu à la Première, à la Deuxième Guerre mondiale, qui avait survécu à toutes les catastrophes qu'avait vécu le territoire allemand depuis plusieurs siècles. Et eh bien cette entreprise n'a pas survécu à ça. Donc elle n'a pas survécu au résultat des sanctions. Donc je pense que c'est là, en fait, qu'à un moment, ça va coincer quand eh bien, les pays européens auront donné tout ce qu'ils auront pu donner et que leurs industries ne pouvant plus fonctionner. Parce que quand vous perdez des usines métallurgiques, avec quoi vous allez faire vos chars, vos armes? C'est une très grande question, hein, parce que je rappelle qu'il faut quand même de l'acier, il faut du métal. Et donc à un moment, eh bien, ils vont se retrouver effectivement complètement nus. Et donc il y a un moment où le robinet va se tarir, hein, parce qu'il n'y aura plus rien pour approvisionner.
Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire que les 6 prochains mois seront donc va pouvoir permettre de voir la fin du conflit? Les 6 prochains mois sont extrêmement cruciaux pour ce conflit Ukraine-Russie. Vous êtes d'accord vous-même? C'est ce que vous percevez également?
Oui, je pense que les prochains mois seront assez décisifs parce que à l'allure actuelle, c'est-à-dire que l'année dernière, vraiment, il y a eu une première phase très très rapide, puis ensuite un nivellement de la ligne de front qui a laissé le temps à la Russie de mener sa mobilisation, de laisser aussi à son industrie le temps de passer en régime de guerre. Hein. Donc là, maintenant, c'est le cas. Les usines d'armement et de munitions fonctionnent à plein régime. Elles ont multiplié par plusieurs fois leur production. Et on commence à avoir des nouveaux armements russes qui commencent à arriver sur le terrain, dont les fameux T-90 arrivent. Et là, on est passé à un niveau de destruction de l'armée ukrainienne, à un rythme qui est extrêmement accéléré, puisque, comme je disais, rien qu'à Bakhmout, Evgeny Prigojine a annoncé que ces gars avaient quand même provoqué des pertes qui étaient de 10-11 000 hommes dans l'armée ukrainienne en un mois, rien que pour le mois de février. Vous imaginez bien si ce rythme se poursuit en 6 mois, ça va devenir totalement ingérable. L'armée ukrainienne ne peut pas se permettre de perdre 10 000 hommes par mois. Je veux dire, à un moment, ça devient absolument plus gérable. Et on voit que c'est un rythme qui est beaucoup plus élevé que l'année dernière.
Merci, Madame Christelle Néant. C'est là que se finit malheureusement notre débat. Merci pour vos informations qui viennent directement. Donc, je rappelle, Mme Christelle Néant est fondatrice de Donbass Insider. Elle est actuellement directement dans le Donbass. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie également M. Develay, également très au courant de ce qui se passe en Ukraine, de participer à ce débat pour permettre à vous, auditeurs, d'en savoir plus. C'était Presse TV, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Merci à vous. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 16 à 22 du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets de la sourate 43 qui nous ont appris que bien que le Coran soit révélé au prophète en langue arabe, le message divin n'appartient pas uniquement à une nation spécifique et qu'il s'adresse à l'humanité tout entière. Le Coran original est conservé au ciel et il contient toute la vérité au-delà de la compréhension de l'homme. L'une des traditions divines consistait à envoyer des messagers pour guider les humains. Cependant, la plupart des gens auxquels ces messagers ont été envoyés se détournaient d'eux et ne croyaient pas en leur message. Ils se raillaient des messagers et avaient même parfois tuer les prophètes. Parmi ces malfaiteurs, certains peuples ont été frappés par le châtiment divin et ont été anéantis. Cela nous apprend que le châtiment des pécheurs et des criminels n'est pas toujours retardé jusqu'à la résurrection et que la colère divine pourrait les frapper ici même sur la terre. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 16 à 18 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
Ou bien se serait-il attribué des filles parmi ceux qu'il crée et accordé à vous par préférence des fils? Or, quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une semblable de ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. Quoi, cet être, la fille, élevée au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Depuis longtemps, dans de nombreuses cultures humaines, les hommes ont été considérés supérieurs aux femmes et ils se sont donné des privilèges et des droits sur la base de cette fausse croyance. Le Coran rejette ces idées selon lesquelles les femmes sont faibles, des êtres gâtés incapables de se défendre et dépendant en tout et pour tout des hommes et incapables aussi de se raisonner convenablement. Ces versets nous apprennent que croire qu'il y a des différences entre hommes et femmes puise ses racines dans les superstitions et de mauvaises croyances ancestrales. Le Coran rejette formellement ces mauvaises croyances. Il existe certes certaines différences biologiques et comportementales entre les hommes et les femmes, mais cela n'est point la base d'une discrimination ou d'une fausse supériorité de l'un sur l'autre. Les besognes violentes, comme la guerre, ne sont pas conformes aux particularités naturelles des femmes. Autrement dit, il y a naturellement un partage de tâches entre l'homme et la femme, sans qu'il y ait question de la supériorité de l'un sur l'autre. Voici maintenant les versets 19 et 20 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. Et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont aucune conscience. Ils ne font que se livrer à des conjonctures. À l'époque de l'avènement du noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, certains croyaient que les anges étaient féminins et étaient les filles de Dieu. Ainsi, ils attribuaient faussement certains pouvoirs et privilèges aux anges dans la gestion de l'univers. Or, le Coran rejette ces croyances superstitieuses. Était-il témoin de la création des anges, soulignent ces versets. Ces versets nous apprennent que les anges sont des créatures du Seigneur et non pas les filles de Dieu, d'autant plus que, contrairement aux humains, les anges n'ont pas de sexe. Dans l'autre monde, au jour du jugement dernier, ceux qui ont adoré les créatures du Seigneur, soit les anges, soit des humains, seront condamnés. Nous ne devons jamais croire que nos paroles n'ont pas de conséquences dans l'univers de la création. Nous devons savoir que nous serons jugés par le Seigneur. Évitons de vouloir justifier nos mauvais actes en les attribuant au Seigneur, qui a envoyé le livre et les messagers pour guider les humains sans jamais donner l'ordre aux humains de commettre les mauvais actes. Écoutons enfin les versets 21 et 22 de la sourate 43 du noble Coran.
Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna abaana ala
Ou bien leur avions-nous donné avant lui le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés? Mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Le Coran rejette donc les croyances superstitieuses et souligne ici que ces gens-là attribuaient leurs fausses croyances aux enseignements du livre et des messagers du Seigneur. Or, en réalité, ils suivaient aveuglément les traces de leurs ancêtres et leurs idées ténébreuses et pleines d'ignorance. Ces versets nous apprennent que les croyances et les convictions doivent se fonder sur la raison et sur la source de la révélation divine. Ce qui n'est pas conforme à ces principes doit être considéré comme superstition et associationnisme au nom des enseignements des ancêtres et des mœurs. Nous devons veiller à ce que de mauvaises croyances et traditions, qui sont souvent obscurantistes, ne se propagent pas dans la société au nom de la sauvegarde des traces et des enseignements des ancêtres. Tout fanatisme national, racial ou linguistique pourrait conduire vers une imitation aveugle et irraisonnable, et cela est rejeté formellement par le Coran. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Thank you.